Pour la défense, quand le professeur est parti en retraite ou mort ou ce que vous voudrez, on dit on va créer une chaire avec les crédits laissés vacants par la disponibilité de cette chaire au Collège de France.
Les leçons inaugurales du Collège de France par Meryl Moneghetti.
Il y a tout un rituel. On entre tout d'abord dans la petite salle des professeurs qui est à l'arrière de la grande salle 8, qui est la salle des leçons inaugurales. Alors on est là tous serrés à se saluer, à se congratuler en attendant l'heure fatidique. Je me souviens que M. Lévi-Strauss m'a prise par le bras parce que je tremblais, je lui ai dit je meurs de peur. Il me dit on est tous passés par là, Françoise, il faut y aller.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment la pensée algorithmique est-elle l'apanage de nos cerveaux lents, mais pleins d'intuition, et comment l'exécution est-elle le fait de notre électronique hyper rapide, mais totalement dénuée de jugeote ? Pourquoi parler de plusieurs principes et modèles de calcul alors que tous les ordinateurs actuels fonctionnent de la même façon et ne semblent différer que par leur marque, leur vitesse et leur prix, s'interroge l'informaticien Gérard Berry dans sa leçon inaugurale intitulée « Penser, modéliser et maîtriser le calcul informatique » en 2009. Cette semaine et la suivante, je vous propose de plonger dans le monde passionnant de l'informatique en compagnie de Gérard Berry, un monde riche de stimulantes questions sur tous les changements qui nous touchent. D'abord titulaire d'une chaire annuelle dans la vénérable institution, il anime aujourd'hui une chaire permanente intitulée « Algorithmes, machines et langages ». Ce matin, je vous propose d'entendre sa leçon inaugurale numéro 2 quand il a initié la chaire informatique et sciences numériques en 2009. Polytechnicien, il était chercheur enseignant à l'école des mines, puis à l'INRIA, et directeur technologique de la société Estrel Technologies. Médaillé d'or du CNRS en 2014, il est un pionnier dans un nombre considérable de domaines informatiques, le lambda calcul, la programmation en temps réel, la conception de circuits intégrés synchrones. Quelle est la variété des modèles de calcul s'interroge-t-il aujourd'hui ? Pourquoi raisonner et calculer sur les programmes ? Quels sont les modèles séquentiels ? Que devons-nous au génie d'Alan Turing ? Avec l'extension d'Internet et des réseaux d'objets aujourd'hui, quelles sont les nouvelles frontières du calcul et la coopération de modèles ? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 19 novembre 2009 pour la leçon inaugurale de Gérard Berry intitulée « Penser, modéliser et maîtriser le calcul informatique ».
Monsieur l'administrateur, monsieur le président directeur général de l'INRIA, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs présents ou internautes, c'est un assez grand honneur que de redoubler au Collège de France pour faire un deuxième cours et j'appliquerai sa loi qui est de ne jamais faire deux fois la même chose. Je vais parler de calcul. Pourquoi ? Parce que le calcul est le cœur de l'informatique. L'informatique, c'est la science du calcul automatique. Vous êtes entouré de calculs automatiques absolument partout. Quand vous regardez une télévision moderne, vous ne le savez peut-être pas, mais vous regardez se faire des centaines de milliards d'additions et de multiplications par seconde. Et ça, ce n'est pas quelque chose de simple. Et cette science du calcul n'est pas du tout récente, et elle est fondamentale pour éviter de faire n'importe quoi, comme on voit hélas trop souvent. Alors revenons d'abord sur ce que c'est que le calcul. Le calcul, ça évoque ceci d'abord. Un professeur ou un mathématicien avec un crayon ou un tableau, et puis quelques aides, comme une table de logarithme, une règle de calcul, un boulier, ou bien cette extraordinaire machine Curta, que j'ai empruntée à ma mère, que je salue de très loin, qui a enseigné ça longtemps avant l'existence des ordinateurs, machine à manivelle qui est capable de faire des opérations sur 10 chiffres décimaux, ce qui est tout à fait extraordinaire. Cette machine, je vais vous en montrer simplement le plan pour voir qu'elle a très peu de pièces. C'est une machine qui a beaucoup servi, hein, calculatrice portable. Et dans cette machine, il y a une pièce absolument essentielle. C'est la manivelle. Pourquoi ? Parce que c'est en tournant la manivelle qu'on calcule. Et donc, il y a deux pièces essentielles qui se rajoutent à ça. C'est votre main qui tourne la manivelle et votre cerveau qui fait tourner votre main. C'est vous qui calculez avec une aide. Voici la machine qui l'a suivi, le microprocesseur. Il y a un peu plus de pièces. Celui-là, c'est un modèle déjà un peu ancien. Il a à peu près 500 millions de transistors. Donc, si vous voulez l'imprimer à l'échelle du plan précédent, ça va vous prendre un tranquille kilomètre carré. C'est pas tellement ça qui compte. Il y a beaucoup plus de pièces, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est surtout que la nature de l'objet est fondamentalement différente. Pourquoi ? Parce que la manivelle est à l'intérieur et plus à l'extérieur. C'est pas vous qui tournez la manivelle. Et on peut dire que la première devise d'un microprocesseur, s'il pensait, ce serait la suivante. Si vous m'instruisez bien, je sais tout faire tout seul en tournant moi-même la manivelle. C'est ça la grande différence, l'internalisation de la manivelle. Dans tout le cours précédent, où j'avais développé la science informatique dans plusieurs pans en relation avec les applications technologiques, les algorithmes, les circuits, les systèmes embarqués, les réseaux, etc., j'avais beaucoup insisté sur l'importance de la première partie, si vous m'instruisez bien, qui est la grande difficulté de l'informatique. Et je vais réinsister dessus parce que ça reste encore la vraie difficulté de l'informatique. Alors avant, quand j'étais petit, on appelait un circuit un cerveau électronique. C'est un peu désuet, d'ailleurs c'est dommage. J'ai essayé d'aller chez des marchands d'ordinateurs pour leur demander « vous n'auriez pas un cerveau électronique ?» Et ils m'ont regardé d'un air bizarre, ce qui prouve que le mot a été oublié. Et c'était un mot pas juste, parce que ce n'est pas du tout un cerveau. Un microprocesseur, c'est un muscle. Et d'ailleurs, maintenant, on le dit que c'est un muscle parce qu'on appelle ça un multicœur. Quand vous allez dans les magasins, vous allez acheter des multicœurs. Vous voulez 2 ou 4 cœurs. Hein. Les humains en ont qu'un, mais les processeurs en ont 2, 4 et bientôt peut-être 500 ou plus. Ce sont des cœurs. Et muscle veut dire aussi pas de cerveau. Donc, la deuxième et la plus fondamentale devise de l'ordinateur, celle qui va guider tout mon cours, c'est celui-là. C'est rapidité, exactitude, stupidité. Hein, n'oubliez jamais ça, ça va vite, ça se trompe jamais, c'est négligeable les erreurs d'ordinateur, et c'est vraiment stupide. Alors quelle est la conséquence immédiate ? La conséquence immédiate, c'est le gouffre entre deux choses. D'abord, le mathématicien, ici Kepler, qui n'a malheureusement pas pour lui connu ça, je suis sûr qu'il aurait aimé, et lui a de l'intuition, une rigueur qui reste toute humaine, même pour les plus grands mathématiciens, mais après tout, ce n'est pas forcément le problème, puisqu'ils ne sont pas stupides, et une lenteur humaine. Et donc, intuition, rigueur, lenteur, contre rapidité, exactitude, stupidité. Ça veut dire qu'entre penser un calcul et le faire effectivement, si on s'y prend au pif, c'est la seule bonne expression, ce qui est malheureusement encore assez employé, le chemin va ressembler un peu à ça, et ça va poser de gros problèmes de maîtrise, et ça va induire quelque chose dont j'ai déjà beaucoup parlé ici, qui sont les bugs qui attaquent les systèmes quand on les fait artisanal n'est pas le bon mot, quand on les fait, comme diraient les enfants modernes, à l'arrache. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut se dire que s'il y a un tel fossé, il faut certainement mettre une pile au milieu. Et la pile qu'on va mettre au milieu, c'est la notion de modèle de calcul, qui va être un cadre conceptuel et formel qui va nous permettre de concevoir les calculs et de raisonner dessus. Et on va aller plus loin, parce qu'on a quand même compris que l'ordinateur était quelque chose de très utile, et donc on va le faire calculer sur le calcul. C'est-à-dire qu'au lieu de nous-mêmes raisonner sur les programmes, on va se débrouiller pour que ce soit des ordinateurs qui raisonnent stupidement sur des programmes stupides pour obtenir des résultats intelligents. Ça, c'est l'informatique moderne. Alors, vous comprendrez bien que ce n'est pas forcément simple. L'anatomie d'un modèle de calcul, c'est à peu près ça. D'abord, un noyau intuitif et mathématique. Le bleu représente le ciel, nous, les hommes, les pensées et tout. Et le modèle doit nous conduire notre pensée algorithmique, doit nous aider à concevoir les applications, à les programmer, et doit surtout nous permettre de raisonner sur la correction. Si on ne raisonne pas sur la correction, les bugs arrivent. Le raisonnement sur la correction est l'insecticide de l'informatique. La deuxième chose qui doit être là, ce sont des machines. Les modèles doivent nous aider à concevoir les machines, à les rendre beaucoup plus simples, beaucoup plus contrôlables. Et les langages que nous utilisons pour parler à ces machines, les langages sont le vecteur de la pensée en informatique. Et puis, dans le marron du sol, de l'implémentation des circuits, eh bien, il va falloir trouver des moyens de réaliser tout ça, de l'optimiser et de vérifier que c'est bien fait, parce qu'il ne suffit pas de raisonner. Il faut encore qu'une fois que le raisonnement est bon, la réalisation soit bonne. Donc c'est cette étoile, et pleine de relations entre les différentes cases, bien sûr, que je ne dessine pas, c'est cette étoile qui va faire les modèles, les bons modèles. Si vous enlevez quelque chose, ça ne marchera plus. Un modèle intuitif n'est pas mathématique. En gros, c'est inopérant. Un modèle mathématique n'est pas intuitif, ça sert à 4 personnes. Donc, il va falloir mettre la barre très haut. Et vous allez voir que c'est assez difficile. Alors, je sens tout de suite votre regard me dire « Pourquoi plusieurs modèles de calcul alors que tous les ordinateurs ont l'air de marcher pareil et de différer que par la vitesse ou par le prix ?» Ah. Eh bien, c'est parce que le calcul est en fait beaucoup plus varié qu'on ne le croit et qu'il a évolué au cours des années d'une façon assez fantastique. Et je vais développer, dans le cours et ici même, 4 sortes de modèles de nature assez différente. Les premiers, qui datent d'avant l'ordinateur, des années 30, les modèles de la calculabilité. Avant les ordinateurs, les gens se disaient « Qu'est-ce que j'aimerais avoir un ordinateur, mais j'en ai pas. Je vais étudier ce que je pourrais faire ou ne pas faire avec un ordinateur. » Les mêmes ont construit les premiers ordinateurs, mais ce n'étaient pas les mêmes que maintenant. Deuxièmement, les modèles séquentiels. Les modèles séquentiels, c'est ce qui a suivi naturellement. C'est l'imitation sur ordinateur d'un mathématicien avec un crayon. Séquentiel veut dire on fait des opérations une par une avec un crayon. Ça a été dominant, c'est encore extrêmement répandu. On enseigne ça à peu près toute la phase jusqu'à l'enseignement supérieur. Enfin, on n'enseigne pas l'informatique en France toujours, ça va peut-être venir un jour. Mais même à l'université, c'est ça qu'on enseigne surtout. Plus récemment sont apparus les modèles parallèles, dans lesquels un programme va s'exécuter sur un grand nombre de machines simultanément, qui vont coopérer ou se battre ou des choses comme ça. On va voir que c'est beaucoup plus difficile. Et maintenant se dégage une nouvelle notion qu'on peut appeler le modèle diffus, qui est due à la très grande taille. Internet, c'est 1 milliard d'ordinateurs, et on peut compter que bientôt, il y aura peut-être 100 au minimum d'objets sur Internet par homme, soit 100 fois plus d'objets que d'hommes sur Internet. Donc il va falloir trouver de nouveaux principes pour faire marcher tout ça. Donc je vais prendre ces choses dans l'ordre. Avant, il me faut quelques notions préliminaires. Assez simples, mais pas si connues que ça. La première, c'est la sémantique. La sémantique est une notion philosophique bien classique, mathématique aussi, mais tout à fait non évidente. C'est la liaison entre les concepts et les symboles. Le domaine des concepts, c'est celui de notre pensée. Nous disons la somme du nombre 34 et du nombre 56 et du nombre 90. Donc nous avons une idée de nombre, mais nous n'avons jamais vu de nombre. Je cherche désespérément des photos de nombre. Si vous en avez, j'aimerais bien les voir. Il n'y a pas de photos de nombre. Le nombre est une entité intellectuelle. La somme est une opération infinie. Nous avons une infinité de nombres. La somme est une opération infinie. Pas de problème pour raisonner là-dessus, après un certain apprentissage. Mais un ordinateur ne connaît pas ça. Lui, ce qu'il connaît, c'est les symboles. Électriques, physiques, n'importe. Donc, 3, 4 et 5, 6 sont des symboles en représentation décimale. Ce sont des écritures. Si un martien voit 3, 4, 5, 6, il n'aura aucune idée de ce que c'est. Un ordinateur ne va pas dire la somme du nombre 34 et du nombre 56 et le nombre 90. Il va faire la chose suivante. Il va prendre ces symboles, il va les colorier un peu pour séparer les unités des dizaines et séparer l'opération. Il va prendre les unités et il va les déplacer. Il va changer la couleur du symbole plus parce que maintenant ce n'est plus la même opération. C'est regarder dans une table. C'est ce qu'on apprend aux enfants. Et il va trouver que ça fait 1, 0. Pas 10, 1, 0. Ensuite, il va prendre les dizaines, il va propager la retenue, il va faire 3 plus 5 plus 1, il va regarder dans la table, il va trouver que ça fait 0,9. Et tout fièrement, si je puis dire, il va vous rendre le résultat 0,90. Pas 9,0, 0,90. Ça, c'est ce que fait l'ordinateur. Donc, rappelez-vous toujours, il n'y a pas de nombre dans un ordinateur. Il n'y a rien que des symboles. Beaucoup de confusions viennent de ça, déjà. Le diagramme sémantique explique ça de façon simple. Il dit la chose suivante, les concepts, vous les avez. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans le monde des symboles par l'intermédiaire de notation, la représentation décimale par exemple, mais il faut noter tout, la musique, il faut noter les images, il faut noter la vidéo, il faut tout noter. Laissez l'ordinateur tourner la manivelle et réinterprétez le résultat en employant une fonction de dénotation pour savoir ce que le résultat dénote. Ça, c'est le schéma central de l'informatique. Et ce tour-là, en revanche, il peut être instancié suivant les modèles, les besoins, en des dizaines de formes différentes. C'est aussi pour ça qu'il y a plusieurs modèles. Ce n'est pas aussi simple que les additions, ce que fait un ordinateur. Alors voilà, la devise de l'informaticien, celle qui va nous occuper, donc vous allez essayer de faire ça. Vous allez voir, ce n'est pas facile. Essayez d'être aussi bête qu'un ordinateur. Quand je faisais mes cours à mes petits-enfants de 6-9 ans, ils me disaient « mais c'est trop dur l'informatique, j'arrive pas à être aussi bête qu'un ordinateur ». Je lui dis « essaye, concentre-toi, tu y arriveras peut-être ». Donc je vous dis la même chose, concentrez-vous, vous y arrivez peut-être. Deuxième notion, la causalité des calculs. Ça va être très important, comme en physique, la causalité est une notion fondamentale dans l'enchaînement des événements, là c'est pareil. Vous avez à faire 3 plus 4 plus 8 moins 3. Vous regardez tout de suite que les trois opérations ne sont pas équivalentes. Parce que celle de milieu est inerte, elle ne peut rien faire. Par contre, la rouge et la bleue peuvent travailler. Alors on peut éventuellement faire la bleue, on se retrouve avec le reste de la rouge, ce qu'on appelle techniquement un résidu. On peut au contraire faire la rouge, on se retrouve avec le reste de la bleue, le résidu. À ce moment-là, on peut refermer son dessin et on se retrouve avec 7 plus 5. En un sens, on aurait pu faire les deux en même temps, en parallèle. Une fois qu'on a 7 plus 5, on se dit « tiens, il se passe quelque chose de bizarre. Le plus central se met à vivre. Il devient marron, on a créé un nouveau calcul. Et ce calcul, maintenant, qui n'existait pas, il n'était pas faisable avant, va nous donner 12. » La causalité, c'est de colorier les informations et de regarder comment elles se relient entre elles. Ici, on a l'opération bleue, l'opération rouge et l'opération marron. Et on voit que bleu et rouge sont indépendants et vont causer marron. Beaucoup de l'informatique est dans l'étude et le raffinement et la compréhension de la causalité. Vous allez le voir. La causalité, c'est ça qui détermine la liberté du calcul et ce qu'on peut faire pour calculer. Troisième notion, et dernière, le déterminisme ou le non-déterminisme. Notion très importante. Déterminisme, un seul résultat. Quand vous faites des calculs mathématiques standards, 3 plus 5, ça fait 8, il n'y a qu'un résultat. Alors c'est ce qu'on trouve dans les circuits électroniques, c'est ce que vous trouvez dans les avions, vous espérez que le pilote pilote un avion déterministe, pas un avion qui choisit indifféremment d'aller à droite ou à gauche, et dans la conduite de voiture, pareil. Non déterministe, plusieurs résultats. C'est tout aussi naturel, mais pas au même endroit. Quand vous lisez le monde sur Internet, vous espérez ne pas avoir le même résultat tous les jours. D'accord ? C'est même pour ça que vous lisez le monde tous les jours sur Internet, pour ne pas avoir le même résultat. Théorème d'incertitude, on ne peut pas connaître en même temps la position et le contenu d'une page web. C'est l'analogue de Heisenberg en informatique, ça. Et puis, il y a encore quelques voitures qui ont des comportements non déterministes, et j'en ai beaucoup parlé dans mon premier cours, et je n'y reviendrai pas ici. Alors, voici deux modèles pour un problème très simple. Le problème, calculer les nombres premiers. Tout le monde sait faire ça, on apprend à l'école. Premier modèle, celui qu'on apprend à l'école, le crible d'Ératosthène. Donc un nombre premier est premier s'il n'a pas d'autre diviseur que 1 et lui-même. On va mettre les nombres en rang jusqu'à une certaine borne, on part de 2 et on va barrer tous les multiples de 2. Une fois qu'ils sont barrés, dans l'ordre, de gauche à droite, une fois qu'ils sont barrés, on les enlève. Après, 3 est premier parce qu'il n'est pas barré, c'est le plus petit, et puis on va barrer les multiples de 3, on les enlève. Après 5, on va barrer, 7, on va barrer, et pour cette table-là, on a fini. Donc vous voyez le principe, mathématicien, un crayon, et un ordre bien précis pour faire les choses tout le temps. Bien. 2009 est l'année Darwin, égale 41 fois 49, c'est ça, 41 fois 49. Le crible de Darwin, bien plus malin. Je vais dire simplement une espèce de réaction chimique. Quand un nombre P rencontre un multiple KP, il le mange. Alors voilà comment on fait, on met des petits poissons dans la mer avec des dossards, avec un nombre dessus, et quand un poisson voit un multiple, il l'attaque sauvagement et il le mange. Donc ici, 3 attaque 9. En parallèle, quelque part ailleurs, dans l'eau, 28 se fait sauvagement attaquer par 7 et 4. Vous remarquerez que la causalité n'est pas tout à fait la même, elle est plus large, puisque 4 peut attaquer 28, alors que dans le crible d'Eratosthène, il n'y a que 2 qui peut attaquer 28. Et puis, en fait, ça ne va pas se passer comme ça, c'est 7 qui va agir parce que 4 va être mangé par 2. Donc vous mettez plein de poissons, vous pouvez en mettre une infinité même si vous voulez. Vous pouvez même mettre plusieurs fois le même. Et ça va vous calculer les nombres premiers, mais d'une façon un peu différente, hyper parallèle, qui paraît un peu étrange, mais ça marche très bien. Et on peut regarder Internet, je ne vais pas le faire ici, mais dans le cours, oui, on peut regarder Internet comme quelque chose qui ressemble tout à fait à ça. Alors c'est un modèle qui avait été créé par Jean-Pierre Banâtre et Daniel Le Métayer, sous le nom de gamma, un langage qui a été systématisé, mathématisé par moi-même et Gérard Boudol dans la machine abstraite chimique, ou CHAM, en l'honneur de Chamonix aussi, et qui est maintenant un peu un standard, j'en reparlerai un peu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment se comparent ces deux modèles? Eh bien, le premier, il est séquentiel. Le deuxième est massivement parallèle. Dans le premier, la causalité est complexe, puisqu'il va y avoir des opérations successives, il va falloir rebrousser chemin, etc. Dans le deuxième, la causalité est triviale, il suffit de laisser faire Darwin. Dans les deux cas, le résultat est déterministe, mais dans le premier cas, le calcul aussi, et dans le deuxième cas, non. La terminaison du premier est triviale, on sait quand on a fini, la deuxième est probabiliste, on a fini quand il n'y a plus de poisson à manger. Et le premier est limité au fini, parce que c'est un peu dur d'aller à l'infini et puis de revenir au début. Alors que le deuxième marche très bien à l'infini. Donc vous voyez, un seul problème, trivial, deux modèles de calcul massivement différents. Donc ça nous dit que le sujet ne va pas être peu riche. Alors j'en viens à la calculabilité. Comment définir la calculabilité? Trois méthodes. Premièrement, les machines. Deuxièmement, les langages. Troisièmement, les mathématiques, les classes de fonctions. Ça, j'en parlerai pas. Alors la chose qui a été démontrée dans les années 30, c'est que toutes ces définitions se valent. Et la thèse de Church-Turing, qui est une thèse philosophique, c'est qu'on a atteint le bout et qu'il n'y aura pas de définition meilleure que ça. Elle n'a jamais été infirmée. Regardons les machines. Machine de Turing. Machine hyper simple, vous avez une bande infinie dans les deux sens, potentiellement infinie, avec des cases, au début il n'y en a qu'un nombre fini, de rempli, et dedans vous écrivez des choses, et les opérations que vous pouvez faire sont très simples. Bouger la bande à droite, bouger la bande à gauche, ou bien réécrire quelque chose par-dessus. C'est tout. Et le cœur de la machine, la table d'instruction, c'est ceci, c'est des états A, B, C, D et des opérations. Quand je suis dans A et que je lis 3, je bouge la bande à droite et je reste dans l'état A. Quand je suis dans B et que je lis 7, je bouge la bande à gauche et je reste dans B. Ou bien j'écris 2 et je vais dans l'état A. Simplement un stock d'opérations comme ça. Cette machine totalement stupide, qui s'est d'ailleurs très mal vendue, qui n'a aucun sens pratique, suffit à tout calculer. C'est tout à fait étonnant. Et pourquoi est-ce qu'elle est bien? Parce qu'elle est hyper simple. Elle a, il y a des grands théorèmes associés. Mais avant, j'ai oublié de dire quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que la machine s'arrête ou pas. Et par exemple, ici, l'état C n'a pas de règle. Donc, quand elle arrive dans l'état C, la machine ne sait pas quoi faire. Elle s'arrête. Sinon, elle peut boucler éventuellement. Bien. Elle peut être non-déterministe ou déterministe. Ça ne change rien. C'est un modèle extrêmement robuste. Vous pouvez y mettre deux bandes, une bande, ça ne change rien. La qualité d'un modèle, c'est aussi sa robustesse au changement. Théorème 1, il y a une machine universelle. C'est-à-dire, il existe une machine qui permet de simuler toute autre machine. Supposez que vous avez une machine M avec des données données, ici. Eh bien, vous pouvez faire tourner une machine, la même pour tout le monde, la machine universelle, en lui donnant la documentation de M, c'est-à-dire la table dont je parlais, et les données de M, et il va imiter... Émuler, ça s'appelle M. D'accord? Donc une seule machine suffit à tout, à condition de mettre dedans le programme. Ça, c'est Turing, c'est très ancien, c'est 1936, je pense, et ça a inventé la notion clé de l'informatique, qu'il n'y a pas de différence entre programme et données. Grand résultat positif. Grand résultat négatif qui vient immédiatement après. On aimerait bien savoir si une machine va s'arrêter ou pas. On aimerait bien refaire le même coup. Donner la documentation de la machine et les données, et puis fabriquer une machine A qui répond toujours, soit ça s'arrête, soit ça s'arrête pas. Une espèce de débogueur universel. Grand résultat de Turing, cette chose n'existe pas, elle montre immédiatement les frontières du calcul. Le calcul général ne peut pas calculer sur lui-même complètement. Ce théorème se démontre par une espèce de paradoxe du menteur, habile. Le menteur, ça ne peut pas exister, parce que s'il dit « je mens » et qu'il dit la vérité, il ment, mais s'il ment, il dit la vérité. Donc le menteur ne peut pas exister. C'est ce qu'on appelle la diagonale, appliquer une phrase à soi-même. Il y a beaucoup d'autres résultats, mais ces deux-là sont les plus importants, et ils entraînent que toute propriété non triviale de ces machines est indécidable, c'est-à-dire incalculable. Est-ce que deux machines font la même chose, on ne peut pas savoir, etc. Ça donne des limites fondamentales, mais qu'on va approcher, qu'on va contourner, et avec lesquelles on va se battre, et avec lesquelles on a beaucoup de résultats positifs maintenant derrière, après avoir été déprimé pendant un certain temps. Turing, 1912-1954, Grand théorème en 1936. En 1940, il a été fondamental pour casser le code secret allemand, ce qui a eu un impact majeur sur la guerre. En 1952, il a été condamné pour homosexualité. Il a accepté la castration chimique au lieu de la prison. En 1954, mais c'est pas sûr, il s'est peut-être suicidé. Il a fallu attendre 2009 pour avoir les excuses officielles en Angleterre, en septembre cette année. Et Turing, qui était un grand amateur de l'argument diagonal, a donné son nom au prix Turing, qui est notre prix Nobel à nous. Et je pense que ce serait le moment de lui rendre hommage en lui donnant le prix Turing à titre posthume. Je pense que ce serait un joli clin d'œil de l'histoire que de faire ça.
Le Collège de France et France Culture vous présente l'informaticien Gérard Berry, sa leçon inaugurale « Penser, modéliser et maîtriser le calcul informatique ».
Langage après les machines. Tout le monde sait ce que c'est que factoriel. Factoriel m, si m égale 1, alors 1, sinon multiplication de m par factoriel de m moins 1. Là, ça fait 1, 1, 2, 3, 6, 24, etc. On apprend ça à l'école. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle un programme récursif. Factoriel s'appelle lui-même. On multe, on ne sait pas ce que c'est, mais on peut définir la multiplication pareil, à partir de l'addition. Si m égale 0, 0, sinon n, sinon le deuxième, là, si m égale 1, m fois n, ça fait n. Et sinon, je multiplie m moins 1 par n et j'ajoute n. Et puis l'addition elle-même, on peut la définir à partir de fonctions plus simples, à partir de plus 1 et de moins 1. En fait, il suffit de savoir faire plus 1 et moins 1, ou même que plus 1 d'ailleurs, et d'appliquer ce principe général. Et avec ce langage-là, on sait aussi tout faire. Ça, c'est des langages qui servent réellement, mais pas tout à fait assez puissants, on va faire mieux. Et mieux, c'est le lambda calcul, qui est le joyau des modèles. C'est le plus beau des modèles, c'est le plus grand des modèles. Il est merveilleux, on sait tout faire avec, il n'est pas facile. C'est juste la vie. Alors, le lambda calcul, c'est à la base très simple. On part de la notation classique des fonctions qui dit f prend x et donne x plus 1. Cette notation, vous la trouvez dans tous les bouquins, sauf qu'on voit que f et x sont plus ou moins pas la même couleur et que ces crochets, ça ne sert jamais que dans des formules assez simples. On ne peut pas s'en servir pour calculer. Vous voyez, vous avez f, vous avez g, et puis si vous composez f et g, ça va calculer f de g de z, c'est-à-dire z donne z plus a au carré. Le lambda calcul, c'est juste prendre cette notation au sérieux, à la base. De dire, au lieu d'écrire comme ça, on va juste faire un changement syntaxique. Pas grave, lambda x, x plus 1. Lambda. Hein? Et f de 2, eh bien, on va prendre ça comme une formule sur laquelle on peut calculer. F va être aussi bleu que x, d'ailleurs. On va dire, c'est lambda x, x plus 1 de 2. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on voit qu'on a une fonction ici, on a un argument ici, et on remplace la valeur par l'argument. C'est ce qu'on apprend aux gamins, sans leur dire que c'est important, que c'est du vrai calcul. Pareil pour G, on va faire comme ça. Donc le lambda calcul, c'est juste ça. Intérêt, une opération comme rond, qui est toujours présentée comme quelque chose qui est en dehors, devient quelque chose qui est en dedans, quelque chose de normal. La composition de fonctions, ça prend une fonction U, une fonction V, une fonction Z, et ça calcule U de V de Z. Désolé, c'est le seul endroit où vous allez travailler. Hein. Et là, vous pouvez y aller, vous pouvez calculer bête comme un ordinateur, c'est ça qui est formidable. Vous écrivez ça, rond FG, et puis vous regardez cette expression. Ça, c'est une fonction appliquée à deux arguments. Très bien, alors je colorie les arguments. Ça, ça va devenir ça, et le vert, il va devenir ça. Et hop, je recopie, aussi bête que ça. C'est la seule loi du lambda calcul. C'est bête comme chou. Bon, et on continue. Alors, je n'arrive même pas à comprendre. Regardez juste les couleurs se mettre et ça. Vous pouvez regarder dans les slides après sur Internet si vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est extraordinairement simple. Et l'idée géniale de Church, c'est de dire ça suffit. Ça suffit pour calculer les formules qu'on calcule d'habitude en n'étant aucune pensée. Alors voilà ce que dit Church. Il dit le lambda calcul pur, c'est cet objet-là. Vous prenez des variables, une définition de fonction et une application. Et puis vous avez la loi que quand vous appliquez une fonction à un argument, vous remplacez la variable par l'argument. C'est ce qu'on a toujours dit aux enfants de faire. Ça, c'est le lambda calcul appelé pur. En pratique, on utilise des variantes plus sophistiquées, mais tout est là-dedans quand même. Bon, très bien. Alors, je sens votre regard courroucé me dire, ce calcul est vide, il n'y a rien dedans. Un symbole pour faire une fonction, un symbole pour appliquer et que des variables, Il n'y a pas les entiers, il n'y a pas factoriel égale machin de factoriel, il n'y a rien. Et alors là, le grand génie de Church a été de dire, si, ça y est. Vous n'en êtes juste pas aperçu. Voilà les entiers. Alors, je ne vais pas vous les détailler, hein, rassurez-vous. Voilà les entiers. Un entier, ça devient ce terme bizarre, prendre une fonction, prendre un objet, et appliquer n fois la fonction à l'objet. Techniquement, ça veut dire qu'un entier est promu au niveau d'algorithme. Au lieu d'être un nombre, c'est un algorithme qui lui dit « faites n fois la même chose ». Et ça, c'est l'idée géniale de Church. Alors après, ça devient technique, hein, il faut écrire plus 1 et moins 1, ça occupe. Et puis, alors, c'est le dernier transparent technique de la journée, ne vous inquiétez pas. Bon, on sait bien, on a les entiers, mais on ne sait même pas compter. On ne sait pas faire l'addition, la multiplication factorielle. Hein, ça, on ne sait pas l'écrire. Eh bien, on va voir que si. Alors là, juste un peu pour les gens qui se rappellent de leur maths, ce que je vais dire, c'est ça. Ce que je vais faire, c'est regarder le second membre tout seul et dire que je peux abstraire, je peux dire que le second membre est une fonction de la fonction que je mets là et de l'entier que je mets là. C'est une fonction. À ce moment-là, j'ai à résoudre l'équation suivante, factorielle, est telle que quand je lui applique cette factorielle, cette fonction-là, il ne change pas. Factorielle, c'est la solution de l'équation qui est là. Et mathématiquement, quand on a des équations, on aime bien avoir ce qu'on appelle des points fixes, c'est-à-dire de dire que factorielle, c'est le point qui est inchangé. Et dans le lambda calcul, au miracle, il existe un opérateur, celui-là, essayez pas de savoir pourquoi aujourd'hui, qui, quand je l'applique à n'importe quoi, rend son point fixe. Magique. Donc avec juste rien, on calcule tout. Ça, c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, ce rien peut être augmenté pour devenir de très vrais langages de programmation, dont un célèbre est Camel, développé à l'INRIA par l'équipe de... Après une longue histoire, que je vous raconterai pas, et qui est utilisé universellement maintenant dans le monde, dans énormément d'endroits. Vous voyez, ce qu'on écrit intuitivement en récursif, ça devient un opérateur véritable et bizarre. Alors, ce n'est pas celui-là qu'on utilise en pratique, mais je n'en parlerai pas. Il faut se rappeler ça, qui est très important, qu'on retrouve en mathématiques partout. Pour comprendre comment quelque chose évolue, il faut trouver ce qui n'évolue pas. Par exemple, dans les systèmes dynamiques, il y a des notions d'attracteurs, qui sont justement les choses qui sont préservées par les exécutions, etc. Bien, fin de la partie technique. La carte du lambda calcul est absolument complète. Au centre, le calcul, la théorie des ensembles qui va avec, que je raconterai en cours, l'algorithmique qui va avec, la programmation fonctionnelle, qui est certainement une des plus élégantes qui soit, des relations extrêmement profondes avec la logique formelle, qui ont été vraiment établies dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec en particulier les travaux de Martin Leuf, de Girard, de Gérard Huet, de Thierry Coquand, qui était étudiant et qui a eu le prix Gödel du centenaire. Ça donne des machines virtuelles. La Categorical Abstract Machine, développée par Pierre-Louis Curien et qui a donné son nom à Camel, la machine de Krivine, qui est très belle. Ça donne des vrais langages de programmation et ça donne des vraies implémentations et des vrais systèmes de preuves. HOL a été utilisé pour prouver la correction de l'arithmétique du Pentium après qu'un bug à 470 millions de dollars a été trouvé dedans. Cette carte est très grande. Je vais étudier dans 2 cours et demi le lambda calcul et nous aurons 2 séminaires. Le premier par Jean-Jacques Lévy, mon maître en lambda calcul, qui a découvert la théorie de la causalité du lambda calcul, vraiment, et qui nous parlera de la relation lambda calcul-programmation. Et le deuxième séminaire par Gérard Huet, mon maître en logique, qui nous expliquera les relations entre lambda calcul, logique et linguistique, puisque le lambda calcul est aussi un support très important pour la linguistique. Voici un exemple dû à Georges Gontier qui est dans la salle. Le théorème des 4 couleurs. Ce théorème a une histoire très intéressante. Il a été conjecturé par Guthrie en 1952 et prouvé pour la première fois en 1976. Qu'est-ce que c'est que ce théorème? Quand vous prenez une carte, il suffit de 4 couleurs pour la colorier, de telle manière à ce que 2 états qui ont une frontière commune n'aient pas la même couleur. C'est bête comme chou. C'est évident que c'est 4. Il a juste fallu 125 ans pour le montrer. Et beaucoup de mathématiciens s'y sont cassés les dents. La preuve de 1976 est intéressante. Elle est composée d'un papier de mathématiques et d'un énorme tas de cartes, d'un gros tas fini, de milliers de cartes à vérifier une par une. Papier de mathématiques, tout le monde était bien d'accord. Les cartes une par une, ça a été fait. Mais les gens disaient, mais c'est vérifié par ordinateur, ça ne vaut pas un clou. Georges Gontier, en 2005, a fait une preuve en lambda calcul, fondamentalement, en Coq, dans le système de preuves Coq. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout vérifié de façon uniforme et, aux surprises, il n'y avait pas de problème sur la vérification des cartes finies. Par contre, il y avait un problème avec le papier de maths. C'est que là où il y avait marqué des théorèmes, où il y avait marqué preuve omise, évidente, mais longue, classique en mathématiques, et normal, eh bien, ce n'était pas du tout évident et c'était très long. Donc, le faire en vrai, c'était très difficile. Et donc, ça a été fait. Et Georges, que j'ai eu l'honneur d'avoir comme étudiant avant, a inventé, je dirais, une nouvelle branche que j'appelle le génie logicien, après le génie logiciel, qui est l'organisation de très grosses preuves. Et ce qui l'a fait là est extraordinairement important pour des tas d'autres choses, prouver des compilateurs, etc. Mais ça nous dit que les mathématiques numériques, ça peut aller très très loin. Pour l'instant, ce n'est pas encore très loin, mais en ce moment, on sent que ça bouge énorme. Dans les modèles séquentiels, une autre classe de modèles, les systèmes d'état fini, j'en parlerai beaucoup dans le cours, pas du tout ici. Alors là, l'idée, c'est de se dire qu'on n'a que des ressources finies pour calculer. On n'a qu'une mémoire finie. Une théorie fantastique aussi, complètement différente, mais étudiée depuis 50 ans, et qui sert partout, partout, partout. Des automates finis, vous en avez partout dans vos poches. Dans les circuits électroniques, dans les systèmes embarqués des voitures, dans les réseaux, dans les interfaces machines, etc. C'est un sujet extrêmement important. Et encore une fois, la carte des systèmes d'état fini est complète. Il y a énormément de résultats dans tous les sens, et nous en verrons pas mal dans le cours. Les logiques temporelles sont des logiques spécifiques pour parler du temps, qui sont dues à Amir Tnueli, qui est décédé au début de ce mois, et auquel je souhaiterais rendre hommage publiquement ici. La relation entre logique temporelle et calcul véritable pour faire des vraies preuves sur des vrais systèmes a été en particulier créée par Joseph Sifakis, prix Turing 2007, pour l'instant le seul prix Turing français. Et c'est quelque chose de trop lourd pour être fait en séminaire dans ce cours-là, je pense que ça mériterait d'ailleurs beaucoup plus. Et c'est Dominique Perrin qui nous parlera de résolution de conjectures nouvelles sur le coloriage des routes à l'aide de théorie des automates, très jolie. Passons au parallélisme. Passons aux sujets les plus récents. Pourquoi paralléliser ? Premièrement, parce que les machines communiquent. Vous envoyez quelque chose sur votre imprimante. Votre imprimante est un ordinateur et il faut transmettre quelque chose d'un endroit à un autre. Vous avez des réseaux dans lesquels vous envoyez de l'information, vous parlez à des tas de gens, c'est parallèle. Vous avez du partage de ressources, vous avez plusieurs programmes en même temps sur vos ordinateurs qui partagent l'unité centrale, les disques, etc. Ils sont parallèles. Vous avez Facebook, vous avez des millions d'utilisateurs qui n'arrêtent pas de se causer, de stocker des données en parallèle. Évidemment, pour l'amélioration des performances, on fait des machines à 1 million de processeurs pour aller plus vite. À l'intérieur des circuits, plein de parallélismes déjà expliqués dans le cours précédent. Les objets physiques sont parallèles. Un avion, ça a 10 gouvernes. Pour tourner, il faut bien les coordonner. Elles travaillent en parallèle. Le contrôle aérien va contrôler des centaines d'avions en vol. Ils sont tous indépendants et parallèles, etc., etc. Et les mots-clés ici sont communication, coopération, compétition, sécurité. Et ça, tout ça, c'est beaucoup plus dur. Théorème, que j'ai démontré avec Jean-Jacques Lévy, le lambda calcul ne peut pas faire ça. Ah ! On a calculé merveilleux modèle, ben paf, il ne sait pas faire ça. Donc, il faut tout réinventer. Et de loin, il ne sait pas le faire. De nouveaux bugs. Voici ici deux processus parallèles qui doivent chacun, pour travailler, avoir un crayon et une règle. Évidemment, aucun des deux ne veut lâcher le sien. D'accord ? Alors, le système est coincé, mais c'est assez dur à voir. Quand votre ordinateur ne fait plus rien, il y a de fortes chances que ce soit ça qui se passe à l'intérieur, entre exactement deux processus qui ne veulent pas lâcher la chose qu'ils ont dans la main. Plus subtil, à trois. Il y en a deux qui sont d'accord pour échanger et le troisième qui ne voit rien. Très subtil parce que quand est-ce qu'on sait que c'est vrai ? À l'infini. On a toujours un espoir. Le troisième, il garde l'espoir. Eh oui, donc ça, c'est des bugs extrêmement dangereux, très difficiles à détecter. Autre bug que vous avez, que beaucoup d'entre vous, je pense, ont expérimenté, le ski au XXe siècle. Donc rendez-vous à 13h au pied du téléski par jour de très grand froid. Le premier se pointe, il est toujours à l'heure, lui, il est même un peu en avance, 3 minutes d'avance, donc il se dit « Oh là, j'ai juste le temps d'en faire une ». En plus, il est en retard, l'autre, toujours. Donc, il monte, d'accord, voilà, il met ses gants et tout, 13h arrive. Le deuxième skieur arrive et dit « Oh, je suis en retard, lui, il n'est jamais en retard, donc c'est qu'il est parti en faire une, mais comme je skie mieux que lui, je vais le rattraper. » Et voilà. Donc je pense que le nombre de gens qui ont vécu ça est assez grand, pas forcément au ski. Et ça aussi, c'est tout à fait dangereux. Phénomène qui n'existe pas dans le cas séquentiel. Alors comment on faisait au XXe siècle pour se sortir de ça? Eh bien, au XXe siècle, une méthode qu'on employait si on était intelligent, c'était ça. Quand le premier arrive, il va planter un petit drapeau dans la neige pour dire « Oh, je suis là, attends-moi ». Et donc, il va monter. Le deuxième va arriver, va voir le drapeau et se dit « Ah ben non, il me dit que de l'attendre ». D'accord? Ça, ça marche. Il faut encore avoir le droit de planter le drapeau dans la neige. Hein. Ça marche bien, mais c'est la solution au XXe siècle. Nos enfants, ils font plus comme ça. Ah oui, pourquoi un drapeau? Parce que le drapeau va ajouter un lien de causalité entre les comportements des skieurs. C'est ça qu'il fait. Au XXIe siècle, c'est différent. Le premier monte, le deuxième arrive. Voilà, il sort son portable. Et ce problème a disparu. Le portable a tué ce problème définitivement, sauf quand il n'y a plus de piles. D'accord ? Et le portable est même beaucoup plus important, puisqu'avec le portable, on peut prévenir d'avance qu'on sera en retard. Ça, c'est extrêmement habile. Donc ça, ça montre que dans le parallélisme, il va se passer beaucoup de phénomènes différents et que le mode de communication va interférer énormément avec les calculs. Alors que classiquement, on dit qu'on a des processus et des liens. Alors les liens peuvent être statiques ou dynamiques. Ça peut être bien fixe, comme dans une voiture, ou ça peut changer tout le temps, comme dans Internet. Et puis, il y a trois types de communication complètement différentes. Asynchrone, l'information met un temps quelconque à se propager. C'est Internet. Quand vous envoyez un mail, le temps que ça va mettre est quelconque. Synchrone, le temps est nul. Ah bon ? Vibratoire, le temps non nul est prévisible. Alors, je vais commencer par les deux derniers. C'est pas fait dans l'ordre des cours. Voilà les parallélismes synchrone et vibratoire. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Vous avez un orchestre qui joue et vous avez les spectateurs. Et en ce moment, les spectateurs sont en train de négliger la vitesse du son, n'est-ce pas? Donc tout se passe comme si le son allait de moi à vous en temps zéro. Par contre, l'acousticien qui a fait cette remarquable salle, lui, il connaît la vitesse du son. Et il travaille avec la vitesse du son. Quand vous avez un grand orchestre, ça peut être plus subtil. Si l'orchestre est très très grand, comme dans la 8e symphonie de Mahler, la distance entre les musiciens devient tellement grande que la durée de propagation du son est vraiment très importante. Alors on met un chef d'orchestre, parce que là, les gens voient. Et c'est plus la vitesse du son qui compte, mais la vitesse de la lumière. Ces modèles-là sont extrêmement importants. J'en ai beaucoup parlé dans le premier cours. Et j'en reparlerai sous un axe très différent. Je vais étudier la causalité dans ces modèles, et en particulier, venez voir l'équation de Hamlet, si vous ne l'avez jamais vue, c'est un petit miracle. To be égale to be or not to be. Je ne vous en donne pas la solution ici. Les applications de ces modèles sont très grandes. Un Airbus A380, c'est programmé avec. Et les circuits électroniques, c'est fait avec. Et il y aura deux séminaires par Nicolas Alvax et Jean Vuillemin, que je vois dans la salle, qui nous parleront du modèle lustre et d'un magnifique modèle mathématique des circuits, les nombres de Hadic, où nous découvrirons que passer le temps, c'est multiplié par deux, ce qui n'est pas totalement intuitif, mais extraordinairement riche. La méthode la plus utilisée pour gérer le parallélisme, c'est ce qu'on appelle la mémoire partagée. On met plusieurs ordinateurs sur la même mémoire. Alors c'est simple à faire, hein. C'est pas compliqué à faire, il n'y a pas de problème. C'est juste extraordinairement dur à gérer. Pourquoi ? Supposons qu'on ait deux processus P et Q, par exemple, en train de réserver chacun un siège dans un avion. Si on s'y prend séquentiellement, on va traiter chaque cas indépendamment de l'autre. On va réserver un siège, puis l'autre, etc., et ça va marcher tout seul. Mais si on parallélise, ou si même on casse en petits morceaux P et Q, on va avoir des exécutions comme ça, et qui vont peut-être conduire à un véritable désastre, parce qu'on va avoir brisé, intercalé Q, par exemple, ici, va avoir brisé la causalité à l'intérieur de P. Et ces choses vont se marcher dessus, fondamentalement, se détruire leurs données. Alors, on peut, par exemple, comprendre que rien que intervertir deux morceaux de calcul rendrait le calcul juste. Et ça, c'est extrêmement difficile. Il y a des bouquins entiers là-dessus. Peu de gens savent faire ça. Il faut poser des drapeaux super compliqués. C'est pas comme les skieurs, hein. C'est franchement la taille au-dessus. Et Michel Reynal nous parlera de façon plus générale de l'algorithmique distribuée après mon cours. Énorme sujet, un des plus difficiles de l'informatique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la mémoire partagée ? Il se passe quelque chose qu'on voit tous les jours. Chacun des deux ne sait pas ce qu'est en train de faire l'autre. Il n'y a pas de partage d'informations bien organisé. Alors Tony Hoare, autre prix Turing, a proposé de dire ben, la bonne méthode pour communiquer, c'est de se serrer la main. Parce que quand on se serre la main, on sait que ce que l'autre sait. On sait tous les deux qu'on sait serrer la main. Donc ça marche bien. Donc on a des systèmes asynchrones, mais dans lesquels, quand on communique, on va se serrer la main. Coluche avait écrit des très belles choses là-dessus. On peut faire ça partout. Mais alors, il y a un problème, c'est que c'est assez bien contrôlable, mais c'est tellement lourd qu'en pratique, ça n'arrive pas à servir. Donc ça a un petit peu disparu. Ça existe encore, mais... Moyen totalement inverse. On peut découpler complètement. On peut dire, je prends mon émetteur P, mon récepteur Q, et entre les deux, je mets une file d'attente. C'est-à-dire que P va écrire là, et puis ça va transiter, puis au bout d'un moment, Q va lire. C'est ce qu'on a dans les réseaux. C'est Internet, c'est comme ça. Ou votre machine, quand vous cliquez partout, et que vous voyez rien se passer, puis au bout d'un moment, tout se passe, c'est comme ça. Alors ça, c'est du côté bon, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de parallélisme, mais ça se met à prendre du temps, et le comportement total devient super complexe. Cependant, ça sert beaucoup dans les réseaux, ça sert dans le traitement du signal, etc. Et il y a un modèle prodigieux, dû à Gilles Kahn, en 1972, Gilles Kahn, ancien président de l'INRIA et vieil ami d'énormément de gens dans la salle, malheureusement décédé, un modèle extraordinaire de processus déterministe qui communique par des files d'attente comme ça, et dont le modèle mathématique est issu de lambda-calcul, comme quoi les choses ne sont pas étanches du tout. Et ce modèle est assez dominant, par exemple, dans votre télévision. Vous êtes sûr que vous avez ça dans votre télévision. Pensez à Gilles quand vous regardez la télé. D'autres modèles encore, des réseaux graphiques, les réseaux de Petri où on voit bien, pour ceux qui connaissent, les problèmes de conflit et de coopération, les réseaux d'automates qui sont très utilisés en protocole, d'autres modèles. Vous voyez, c'est bizarre, on a un zoo de modèles, plus du tout comme avant. On n'a pas de grands modèles dominants, on a un zoo de modèles tous intéressants. Un modèle très intéressant, le pi calcul de Milner. Milner était aussi prix Turing et aussi très influent dans le lambda calcul. Alors je vous explique, c'est un modèle tout simple, mais qui permet de prendre en compte avec très peu de choses la dynamicité. En gros, c'est le mélange de la chimie des poissons de Darwin et du lambda calcul. Ça essaye, ça n'y arrive pas encore. Donc vous avez Bob et Alice. Bob et Alice sont toujours les deux acteurs en informatique. Hein. Et Bob voudrait, a vu Alice dans un coin, il sait juste qu'elle s'appelle Alice. Donc il voudrait savoir où elle habite, quelle est son adresse. Donc il envoie un annuaire, adresse d'Alice. L'annuaire prend ce message. Ce message est formé d'informations élémentaires, de rien du tout, hein, de petites chaînes de caractères, et il va répondre à l'adresse d'Alice. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça permet d'établir un nouveau lien auparavant inconnu entre Bob et Alice. Et comme ça, Bob peut envoyer un message à Alice, ce qu'il ne pouvait pas faire juste avant, et envoyer un deuxième message parce qu'il a oublié de signer, d'accord? Et à ce moment-là, Alice peut répondre à Bob, dont elle ne connaissait pas non plus l'adresse. Donc ça veut dire qu'on a un système dans lequel les liens vont être calculés par le calcul. Et ce système, c'est évidemment Internet. Donc la chimie est le meilleur moyen de modéliser Internet. Cependant, si on s'y prend comme ça, si ça c'est les petits poissons de Darwin, il y a un problème énorme, c'est que tout le monde peut lire ce qu'il y a marqué dessus. La grande force du pi calcul, c'est d'être capable de faire avec la même simplicité des canaux secrets, de la sécurité d'information, et c'est le calcul le plus central en sécurité à l'heure actuelle. Il est aussi très important en bioinformatique, pour modéliser les processus biologiques. Ça, c'est le candidat le plus prometteur, mais il est encore très loin du lambda calcul à l'heure actuelle. Cédric Fournet nous parlera des applications pratiques et de la relation entre le pi calcul et le lambda calcul. Voici le grand changement. Le grand changement est arrivé dans les années 2000 au 21e siècle. Pour moi, le 20e siècle, c'est l'histoire. Hein. Pour beaucoup d'enfants, un cours sur comment on faisait au 20e siècle, c'est un cours d'histoire maintenant. Hein. Voilà la phrase que répétaient beaucoup de gens avec un sourire en coin et un air entendu. D'un ordinateur, on ne sort jamais que ce qu'on y a mis. Ça doit être une phrase que j'ai entendue le plus souvent. Dans cette phrase, il y a un paramètre caché. Les deux « on » réfèrent à la même personne. D'accord ? Ça, c'est pas évident. Et quand vous expliquez ça à un petit jeune moderne, il va vous dire, mais moi, je suis pas d'accord. Les deux ont, c'est pas la même personne. D'Internet, je sors ce que le reste du monde y a mis. Il y a une conférence prodigieuse de Michel Serres aux 40 ans de l'INRIA sur ce sujet que vous trouverez sur Internet et qui montre les conséquences gigantesques de ça, en particulier qu'on n'a plus besoin d'avoir la mémoire dans sa propre tête, ni même dans ses propres livres, ce qui est quelque chose qui bouleverse beaucoup le paysage, et je ne suis pas le seul à le dire, évidemment. Autre chose, les calculs sont devenus tellement énormes, Internet est devenu tellement grand, que ce n'est pas une bonne idée de faire des calculs exacts. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait calculer les choses exactement, mais ce n'est plus forcément une bonne idée. Quand vous envoyez un film à quelqu'un, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle le streaming. Pourquoi les mots sont-ils anglais en informatique ? Parce que malheureusement, on n'a pas compris que pour créer les mots, il faut aussi créer les objets qui les nomment. Et en France, on n'est pas complètement du côté des créateurs dans ces domaines-là encore. C'est normal puisque ce n'est pas enseigné. C'était pas enseigné. Merci de collège. Quand vous transmettez un film et que vous le regardez, la seule chose qui compte, c'est de ne pas perdre le fil du temps. Parce que ça, c'est très désagréable. Mais par contre, vous pouvez perdre le fil des images. Si une image n'est pas arrivée, si vous envoyez une information à votre banque et que cette information n'est pas arrivée, vous voulez absolument qu'elle soit retransmise. Quand vous regardez un film, si une image a été perdue, vous ne voulez surtout pas qu'elle soit retransmise. Il faut la perdre. Internet est un système probabiliste qui ne marche que parce qu'il perd les paquets. Les paquets tournent, un peu comme dans Darwin, mais un peu plus astucieux, un peu bien orientés, et puis de temps en temps, ils sont trop vieux, il faut les tuer. Si on ne les tue pas, Internet ne marche pas. Donc Internet est un réseau fondamentalement probabiliste. Donc à l'heure actuelle, et quand vous posez une question à un moteur de recherche, vous posez une question semi-stupide, il ne faut pas vous attendre à avoir une réponse exacte. Donc la notion de calcul même est en train d'être bouleversée. C'est ça que j'appelle le calcul diffus. Alors là, moi-même, je regarde ça, mais je n'en suis pas un acteur, donc j'ai choisi de traiter ce cas par 3 séminaires, par des gens beaucoup plus jeunes, vous allez voir. Premier séminaire sur qu'est-ce que c'est que les communautés sur Internet, qu'est-ce que c'est que le pair-à-pair, que veut dire les réseaux virtuels qui sont en train de se créer par-dessus les réseaux réels, quel modèle de calcul faut-il utiliser pour en parler. Et c'est Anne-Marie Kermarek qui nous parlera de ça. Vaste sujet, en essence. Le deuxième transparent que j'avais montré à mon premier cours, voilà à quoi ressemblent les objets informatisés modernes. Il n'y a pas que les gadgets, il y a aussi la musique, les avions, les prothèses médicales, la domotique, etc. Tout ça, maintenant, est programmable. Mais comment est-ce qu'on fait pour programmer ça ? Pour l'instant, c'est un problème complètement ouvert. Exemple, je voudrais dire à mon vélo, quand tu arrives à moins de 4 km de la maison, mets le chauffage. Ben, à l'heure actuelle, on ne sait pas faire ça. Pourtant, voilà, je voudrais dire exactement ça. Je voudrais que ça prenne à peu près cette place-là. Manuel Serrano, qui est mon chef de projet à l'INRIA, travaille là-dessus, il a des idées extrêmement originales sur ce sujet-là, qui est loin d'être fait, mais tout à fait passionnant, dans ce monde totalement hétérogène, comment faire pour le programmer. Alors évidemment, une des grandes questions, sur laquelle ce ne sont pas les informaticiens les leaders, comment calcule notre cerveau ? Ce qu'on sait, c'est que dans notre cerveau, il y a de très nombreux principes de calcul parallèles à l'œuvre. Il y a des principes vibratoires, ce qu'on appelle les trains d'impulsion, les trains de spike. On sait qu'il y a des évaluations probabilistes. On sait qu'il y a des discussions asynchrones entre coins du cerveau. On sait qu'il y a des synchronisations d'horloges et des modes synchrones dans le cerveau. On sait que le conscient est très séquentiel, il fait une chose à la fois, que l'inconscient est complètement parallèle. Et puis, il y a l'apprentissage qui nous pose beaucoup de questions à nous. On est très jaloux du cerveau, les informaticiens. Il y a beaucoup de pièces en panne dans le cerveau et ça marche encore, tandis que ça, c'est pas tout à fait comme ça. Mais vous voyez, là-dedans, il y a beaucoup de mots qui me parlent, sous un autre angle. Et les neurosciences computationnelles étudient ça, avec les deux points de vue, le point de vue de la biologie et le point de vue de l'information, de l'informatique, à égalité. Bien sûr, c'est encore partiel, parce que ces sujets sont super durs. Et là, nous aurons deux séminaires, un par Sophie Denève, sur le calcul probabiliste et les réseaux bayésiens, et un autre par Yves Fréniac sur la coopération des différents modèles de calcul dans le cerveau. Alors, ne vous attendez pas à trouver là la solution de tous les problèmes. Je pense qu'on n'est pas en informatique, là. L'informatique, c'est simple, on construit des objets comme on veut, on n'a pas besoin d'étudier la nature qui a été faite d'une façon qu'on n'avait pas décidée nous-mêmes. Dans les neurosciences, c'est évidemment un autre problème. Mais pourquoi ça nous intéresse ? Parce que d'abord, c'est peut-être un des sujets les plus fantastiques à l'heure actuelle, et puis parce que nous cherchons les nouveaux principes de calcul. Le cerveau est hyper bon en calcul inexact. Nous, on est nuls. Donc, il y a beaucoup à apprendre. Parce que bien sûr, on veut commander des objets par l'activité cérébrale. Il y a beaucoup de projets là-dessus dans le monde. Parce que bien sûr, on veut coupler les circuits aux neurones. Il y a aussi beaucoup de projets dans le monde. Il est évident que faire un bypass sur la moelle épinière pour pouvoir remarcher rien qu'avec l'activité cervicale, c'est pas quelque chose d'anodin. Et c'est quelque chose qui demandera de comprendre la biologie et l'informatique à égalité. C'est ça que j'appelle les sciences numériques. Alors, Yves Frégnac nous montrera des principes tout à fait différents de calcul, des principes cristallins, des principes liquides, des principes, j'allais pas dire fumeux, des principes de calcul de genre fumé, d'autres choses que je pense les informaticiens connaissent pas très bien. Et là, je voudrais que ce soit vraiment un séminaire pour lancer un sujet. Et à mon avis, le collège est un sujet qu'on va pas résoudre en 3 semaines. Le collège est l'endroit idéal pour ça. Conclusion. Le XXe siècle a clairement été celui de l'énergie et du moteur. Le XXIe sera clairement celui de l'information et du calcul. Vous entendez ça partout. Si les moteurs consomment moins, c'est parce qu'on les gère informatiquement. Pour avoir des éoliennes, pour avoir des capteurs solaires, il faudra faire ce qu'on appelle des smart grids, des réseaux électriques super intelligents qui réagissent extrêmement vite. Ce qu'on ne sait pas faire à l'heure actuelle. Et ça, c'est de l'information, hein, ce n'est pas d'énergie. L'épidémie numérique gagne les sciences, les mathématiques numériques. J'ai parlé du travail de Gontier, Werner, que j'ai oublié de citer, et les autres. Étienne Gis a fait des films qui s'appellent Dimensions. Téléchargez-les, ils sont prodigieux. Des films sur la visualisation de l'espace en 4 dimensions sur votre téléviseur, c'est quelque chose de magique. Traduit en 17 langues, déjà. Le calcul formel, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. La physique numérique. Début octobre, Antoine Georges disait sur cette même estrade dans sa leçon inaugurale « Je ne comprends pas que la physique numérique ait été aussi longtemps ignorée. Elle est fondamentale. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu de faire les expériences en vrai, on les fait sur ordinateur, on les fait avec des atomes numériques. Parce que c'est moins cher et parce que c'est très juste. La bioinformatique, qui est un sujet énorme à l'INRIA et dans le monde, et qui commence à prendre une importance énorme. L'informatique médicale, à l'INRIA, le projet CardioSens a fait une modélisation complète du cœur qui commence à servir à la préparation des opérations chirurgicales. Évidemment, ce sujet est immense, on n'en est encore qu'au début, mais le XXIe siècle sera long, on espère. Si j'avais un seul mot à dire, c'est celui-là. Le seul que vous devriez retenir, faire ce qu'on veut en étant aussi bête qu'un ordinateur demande beaucoup d'intelligence. Je vous remercie.
C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter la leçon inaugurale de Gérard Berry, penser, modéliser et maîtriser le calcul informatique dans le cadre de la chaire informatique et sciences numériques. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion ainsi que l'ensemble des cours de Gérard Berry. Ces cours sont accompagnés de supports visuels que je vous recommande et dont vous trouverez les liens également. Réalisation, Émilie Valla. Présentation, Meryl Moneghetti. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.